Fréquence protestante. La valeur de l'homme. Emmanuel Taïeb.
Le festival Cérimania 2017. Bonjour à tous et toutes. Les séries télévisées ont leur festival. Il se tient à Paris depuis 8 ans, au Forum des Images, et il est ouvert à tous gratuitement. Ce festival, c'est le festival Cérimania, dont l'édition 2017 se tient du 13 au 23 avril. Une soixantaine de séries venues de tous les pays, dont 31 avant-premières mondiales, vont y être présentées. Au total, il y aura 150 projections pendant 10 jours. Au centre du festival, une compétition officielle avec un jury présidé par le showrunner Damon Lindelof, créateur des séries Lost et The Leftovers, et scénariste notamment du film Star Trek Into Darkness de J.J. Abrams. Le festival Cérimania témoigne de la vivacité du genre série et du véritable âge d'or que nous sommes en train de vivre et qui concerne de nombreux pays, dont la France. Cet âge d'or se marque par la transformation de la production des séries en un nouvel Hollywood aux États-Unis, où se rencontrent depuis plusieurs années des réalisateurs, des producteurs, des scénaristes et des acteurs venus du cinéma. Ils ont tous trouvé dans le format série et dans l'émergence de nouvelles chaînes comme HBO ou Netflix l'occasion de développer des projets personnels, des récits de longue durée avec des trames complexes. Les spectateurs ont bien suivi le mouvement qui consomme massivement ce type de programme. Et le succès planétaire d'une série comme Game of Thrones est là pour en témoigner. Alors qu'est-ce qui se joue aujourd'hui dans l'écriture et dans le phénomène des séries? Pour répondre à cette question et évoquer la 8e édition du Festival Cérimania, je reçois Frédéric Lavigne et Charlotte Blum. Bonjour Frédéric Lavigne.
Bonjour.
Frédéric Lavigne, vous êtes directeur artistique du Festival Cérimania, programmateur et chargé de l'action éducative au Forum des Images. Bonjour Charlotte Blum.
Bonjour.
Charlotte Blum, vous êtes journaliste et documentariste, spécialiste des séries et de la pop culture au sens large, notamment de la musique de Marilyn Manson. Mm-hmm. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur ces sujets, dont le dernier s'intitule « C'est sur les séries ». Vous aimez les séries, ce livre est pour vous, c'est sorti aux éditions de La Martinière en 2015. Alors question pour vous deux, hein, Frédéric Lavigne et Charlotte Blum, quelles sont les grandes nouveautés, en quelques mots, que vous avez observées ces dernières années dans la production des séries, c'est-à-dire dans la manière dont on fait des séries? On essaye d'approcher là de cette nouveauté d'écriture, de temps, de chaîne, voilà. Frédéric Lavigne.
Bah, ce qui est frappant, c'est surtout la démultiplication de la production, qui est liée aussi à des nouvelles plateformes de diffusion. Avant, c'était la télé, effectivement, qui diffusait de manière linéaire les séries. Et en France, par exemple, il y avait très peu de place, puisque très peu de cases, comme on dit en jargon télé. Et aujourd'hui, depuis quelques années, il y a un effet d'accélération avec l'arrivée des plateformes Internet, comme Netflix, évidemment, mais aussi Amazon. Et voilà, on en annonce bien d'autres derrière, et qui chacune se lance dans des productions dites originales, parce que c'est pas toujours des vraies productions originales, mais en tout cas, ils les achètent, et après, ils mettent leur logo dessus.
Ils produisent pas en interne.
Ils en commandent beaucoup, ils mettent beaucoup d'argent, mais ils récupèrent aussi beaucoup de choses après coup, et voilà, après ils mettent le mot original sur, à côté de leur logo. Ça, c'est, voilà. Donc ça a donné beaucoup de place à la création. Et puis, c'est déjà venu après l'arrivée du câble aux États-Unis, hein, qui s'est démultiplié aussi, et depuis quelques années, une multiplication aussi de toutes petites chaînes qui apportent de la créativité, puisqu'on voit des petites chaînes aux États-Unis comme TBS ou Epix, là, qui ont des nouvelles séries. On passe d'ailleurs Search Party, qui vient de TBS, qu'on a beaucoup aimé, qui est sur OCS en France, et dont on fait l'intégrale au festival, mais c'est vraiment des toutes petites chaînes.
Et qui du coup ont quand même une espèce de liberté, en même temps une volonté d'occuper un créneau qui peut être intéressant, qui serait le créneau des séries, en faisant des créations originales.
Oui, avec un esprit un peu différent, on va dire. Il y a évidemment, si on regarde aux États-Unis traditionnellement, c'est ce qu'on appelle les networks, c'est-à-dire les chaînes avec publicité.
Les grandes chaînes.
Les grandes chaînes, voilà, qui ont vraiment lancé les séries, et qui sont plutôt dans une forme, on va dire, massive, avec beaucoup d'épisodes, voilà, dont étaient emblématiques Lost ou 24 heures chrono, par exemple, dans les meilleurs. Et puis c'est vrai que HBO, Showtime et toutes ces chaînes sont arrivées et ont fait finalement une sorte de série d'auteurs de plus en plus de luxe. D'ailleurs, en allant débaucher beaucoup de talents de cinéma, ça c'est une tendance aussi récente. Là, on voit Big Little Lies sur HBO cette année avec un casting de dingue.
Nicole Kidman, Reese Witherspoon,
enfin toutes les actrices du cinéma y sont. avec Jean-Marc Vallée, voilà, réalisateur de cinéma aussi, qui est aux commandes. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la série d'auteurs de luxe. Et effectivement, aujourd'hui, il y a aussi des petites chaînes, voilà, comme TBS sur Search Party, qui font plus un esprit ciné indé, série indé aussi, qui suit d'ailleurs le mouvement qu'a connu le cinéma américain il y a 20 ans, hein, quelque part, où finalement le mainstream est devenu plus pointu, et puis le plus pointu est devenu indé. Ouais. C'est des espèces de cycles comme ça que suivent aussi les séries. Et effectivement, maintenant, les plateformes, avec un argent considérable, changent encore la donne. C'est-à-dire que là c'est quand même des énormes productions. Enfin, quand Netflix fait The Crown sur la reine Elisabeth, c'est des millions et des millions sur la table, avec des budgets gigantesques et un rythme de lancement absolument infernal, hein, qui fout un sacré bazar quand même dans la chronologie, parce qu'ils mettent tous les épisodes d'un coup, ils en lancent une tous les 15 jours. Donc là, ça devient un petit peu le bazar quand même.
Ouais, et compliqué à suivre. Même question pour Charlotte Bloom, les grandes nouveautés dans cette production et cette écriture de séries.
Bah, pour moi, c'est vraiment la variété, parce que finalement, des séries d'auteurs et des séries grosses ou petites avec des réalisateurs de cinéma, on commence un peu à s'habituer, ça fait une dizaine d'années que ça dure. Mais moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est de voir à quel point je peux aller chercher la micro-série comme Better Things, qui va raconter la vie d'une mère de famille comédienne mais vraiment 3 francs 6 sous. C'est une micro-série avec pas du tout d'argent. Et effectivement, regarder un énorme Big Little Lies. Le seul truc qui me surprend encore aujourd'hui beaucoup, c'est qu'on parle, et vous le disiez au départ, que ça attire beaucoup les gens de cinéma. Or, pour le moment, les gens de cinéma, en tout cas les réalisateurs, ne s'accaparent pas la télévision. Ils disent tout le temps, c'est le lieu de la liberté, c'est là qu'on a le final cut, on fait ce qu'on veut. Et en réalité, ils viennent, ils font un épisode, et puis ils s'en vont. C'est très rare, les Jean-Marc Vallée, les Cary Fukunaga pour True Detective, qui viennent et qui font toute la série et qui posent leurs pattes du début à la fin. Et j'ai l'impression que même si on s'habitue, et eux s'habituent à venir chez nous, moi je dis souvent ça, le cinéma vient chez nous, ouais, à la
maison,
télé,
la
nous les
série.
Sériephiles, ouais. Ils veulent venir chez nous, mais ils ne veulent pas rester trop longtemps. Parce qu'on sait que c'est des plus petits budgets, on sait que c'est un travail considérable, on sait qu'il y a un rythme insoutenable pour boucler une série, que ce soit une petite série de 8 ou une de 24, effectivement, comme vous disiez, sur les grandes chaînes. Et ça reste un médium qui fait fantasmer tout le monde. Et dès qu'on voit que c'est dur... Bon, c'est déjà super moins intéressant.
On peut imaginer qu'il y aura, et c'est déjà le cas, l'émergence d'un certain nombre de showrunners, de producteurs spécifiques en série. Et là, on est peut-être dans une période où les réalisateurs de cinéma se sont dit « on va aller voir », donc les Scorsese et David Fincher. Mais en réalité, c'est quand même un métier qui a son autonomie, la fabrication de séries avec des gens qui ne sont que dans les séries et qui produisent des choses de très grande qualité.
Et
si
qui,
on prend
oui,
Damon
Lindelof,
par exemple, dont on parlait... Voilà,
je pense que ça ne lui viendrait pas à l'esprit de se coltiner un réalisateur de série, de cinéma, qui va venir lui manger 85% de son budget sur un pilote et après lui laisser les miettes pour essayer de boucler sa série. Je pense que quand on connaît le langage sériel et quand on sait ce qu'il faut pour tenir jusqu'au bout, pour que ce soit intéressant jusqu'au bout, parce qu'on est les premiers à se plaindre quand à la fin de la série c'est moins bien, c'est mou,
oui,
c'est machin.
Le final est un peu décevant.
Bah ouais, le final est un peu décevant, mais... Le rythme qui est pris au début doit être maintenu. C'est vraiment un marathon, une série. C'est pas un sprint, c'est pas un film. Il faut que ce soit parfait du début à la fin. Et on peut pas se le permettre en mettant tout sur le pilote et après en espérant que les gens voudront bien venir parce que ils aiment bien. Nous, ce qu'on veut, c'est tenir jusqu'au bout. Et bon, c'est pas pour les mêmes raisons, mais quand on voit Damon Lindelof, justement, ça fait des années qu'il souffre de ce qu'il a pris en pleine figure à la fin de Lost parce que les gens n'étaient pas contents. C'est très dur de satisfaire les gens. Et encore plus aujourd'hui, on est dans cette espèce de période de peak TV où on a presque trop de séries. Satisfaire quelqu'un et le garder, c'est un challenge parce qu'on a un choix énorme. Moi-même, ça a beau être mon métier, y en a plein que je ne regarde pas parce qu'on n'a qu'une vie. Hein.
Oui, c'est devenu très difficile de tout appréhender. Damon Lindelof dit d'ailleurs que dans The Leftovers, il a plus du tout envie de lever tous les mystères et qu'il va assumer cette part de mystère et que le spectateur devra faire avec. Mais du coup, ça ne se joue pas trop dans le mystère dans The Leftovers. Ça se joue dans les émotions ressenties par les personnages face à ce qui leur arrive, qui est une espèce de mini-cataclysme de disparition d'un certain nombre de gens. Donc là, il a aussi cette liberté de dire « je ne lève plus les mystères ».
Oui, enfin, le mystère qu'il lève, c'est le nôtre. Moi, je comprends la série, plus je me comprends moi. Et ça a toujours été ça, le boulot de Damon Lindelof. Ça a été de nous aider, nous, spectateurs, êtres humains, à réfléchir sur nous-mêmes. Les mystères de la série ne sont que des déclencheurs pour une réflexion personnelle. Et c'est un des mecs qui le fait le mieux, ça.
Frédéric Lavigne, je n'ai pas tout dit sur le festival Sérimania dans ma présentation. Alors, il y a des nouvelles sections, il y a des invités prestigieux, il y a des web-séries. Enfin, il y a une compétition des web-séries où il y a des présentations d'un certain nombre de web-séries. Éclairez-nous un peu sur ces événements.
Le festival, il est né il y a 8 ans, en plein milieu de cet âge d'or là, justement, dont on parle, qui a démarré comme il y a un bon moment maintenant. Et c'est vrai que tous les ans, c'est un peu comme les séries, on n'arrive pas à avoir une forme totalement stable, on évolue en permanence. On est aussi dans le pic festival, on va dire. Et c'est vrai que ce festival déclenche une telle énergie, un tel enthousiasme des spectateurs que tous les ans, on fait un peu plus grand. Et on essaie d'inclure un peu ce qui se passe dans le domaine des séries. Donc pour faire vite, oui, cette année, d'une part, on a beaucoup plus de séances parce qu'on va rediffuser une fois de plus beaucoup de programmes grâce à des salles supplémentaires parce qu'on était arrivé un peu à saturation.
Donc il y a des partenariats avec d'autres cinémas,
au Forum des images. Non, déjà depuis l'année dernière, on était à l'UGC, nos voisins au Hall. Et là, on va aussi aller l'autre côté du périph', comme on dit, à Rosny-sous-Bois, ça on en est ravis. On va être les premiers d'ailleurs à Rosny-sous-Bois à amener de la VO dans le cinéma qui pour l'instant fait que de la VF. Et d'ailleurs, ça c'est accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par le directeur du cinéma. Donc ça, on en est ravis. Puis on espère qu'il y aura du monde aussi là-bas. Et puis on fait des séances comme ça, on se balade un peu dans le quartier, autour, et puis quelques séances exceptionnelles comme au Grand Rex, comme l'an dernier pour l'ouverture avec The Leftovers. Et puis on va à l'UGC Normandie pour une intégrale de 10% saison 2. On va à Beaubourg pour une soirée d'une mini-série de Laetitia Masson avec Arte. Voilà, et on va au Luminor pour deux nuits un peu dingues sur les Masters of Horror et Queer as Folk UK. Voilà. Ça, c'est d'ailleurs des rétrospectives, puisque cette année, une des nouveautés, c'est qu'on lance une section Série Mania Culte. Parce que, évidemment, c'est comme un peu tout. D'ailleurs, c'est comme un peu la politique. C'est pas le tout de parler de l'actualité, de savoir pour qui on va voter, mais c'est bien de se rappeler ce qui s'est passé avant et d'où on vient, et de tenir compte de ça aussi pour la créativité d'aujourd'hui en série. Donc on avait beaucoup de demandes des spectateurs, mais pourquoi vous revenez pas sur telle série?
On aimerait revoir telle série.
Voilà. Donc on a un peu répondu à ça, donc on s'amuse avec des choses très variées, des choses un peu rares, comme Masters of Horror, on va passer une nuit à regarder des grands épisodes faits par des grands cinéastes d'horreur, ou Queer as Folk UK, qui a été un peu écrasé par la version américaine, et qui était une mini-série vraiment formidable, arrêtée en saison 2, au bout de deux épisodes. Donc on va tout repasser. Et puis on va faire des choses sur les séries françaises, par exemple des années 80, avec un journaliste qu'on adore, Benoît Lagan, qui nous a dit mais il faut revoir ces séries de l'ère mitterrandienne, ou comment de pause café.
Donc du coup vous recevez même Véronique Jeannot,
Herself,
mythique interprète de Joël Mazar dans Pause Café, série que les plus de 40 ans connaissent bien.
Voilà. Et qui a été une des premières séries sociales, hein, vraiment Dixit, Benoît Lagan, qui dit c'est la première, au-delà d'un personnage très solaire, très positif comme ça, qu'on a même gardé une image un peu, on va dire, gnangnang au bout d'un moment. En fait, derrière, il y avait des sujets assez durs qui étaient abordés et qui étaient assez osés pour l'époque. Et on va d'ailleurs aussi passer une série un peu oubliée de M6, qui était une espèce de sitcom qui s'appelle La Famille Ramdam, et qu'on a redécouvert aussi grâce à Benoît Lagan, là, et dont on va passer plusieurs épisodes, et qui, à travers vraiment des rires enregistrés et du vaudeville pur, mettait quand même en scène une famille maghrébine qui abordait des sujets extrêmement chauds, quand même, dont aujourd'hui, même, on se dit que la télé française n'aborde plus sujets.
Quoi. On a fait il y a quelques années. Sur les web-séries, Charlotte Blum ou Frédéric Lavigne, est-ce qu'il y a des modalités d'écriture particulières? Est-ce que vous avez en tout cas repéré des séries qui semblent se détacher, ou est-ce qu'on est sur de la production classique, c'est simplement le support de diffusion qui change?
Oui, alors c'est évidemment un support différent. Alors, quand on dit c'est les web-séries, c'était des créations très très indépendantes au départ, hein, sur des plateformes mises à disposition gratuitement, et c'est surtout, ça rentre dans les formats très courts, hein. Souvent c'est des narrations avec des épisodes de 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes max. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une organisation de ça avec des nouvelles plateformes digitales, dont Studio Plus en France, qui s'est lancée la première et qui, en fait, est un abonnement payant et qui permet d'avoir sur son téléphone, sur les plateformes mobiles et les tablettes, des séries en plus qui, en gros, ont des formats de narration de l'ordre de 10 minutes. Hein, c'est du 10 fois 10 minutes à peu près.
Donc, on peut, là, pour le coup, on peut envisager de les voir et de les voir sur des tablettes et de voir toute la saison.
Voilà, en fait, c'est des systèmes qui vous permettent même de les télécharger avant et de les avoir sur votre tablette, de les regarder dans le métro, dans votre déplacement, ça peut être très fractionné comme ça peut être vu en une fois. Il y a des gros budgets qui sont mis dessus maintenant, hein, par Studio Plus et puis par ses concurrents américains. Et il y en a encore un nouveau qui arrive en France bientôt. Donc tout ça, c'était intéressant à observer. Et c'est vrai qu'il y a toute une génération de jeunes cinéastes qui ont du mal à trouver leur place, en particulier au cinéma, ou même dans des séries où en France, il n'y a quand même pas beaucoup de place. Il n'y a pas beaucoup de cases, hein, pour les séries françaises. Et qui, là, s'embarquent avec énormément d'enthousiasme. Et on voit des jeunes qui font du clip, qui font voilà, des formes courtes aussi, des fois sur Internet, et qui vont tourner à l'autre bout du monde pour Studio Plus. Par exemple, on a deux séries assez étonnantes en Amérique du Sud, en Islande, avec des jeunes qui y vont, quoi, qui y vont avec des budgets plutôt confortables et qui inventent des choses, des formes, quoi, assez intéressantes à suivre. Donc, effectivement, il va y avoir une compétition cette année de 8 séries en première mondiale avec un petit jury spécifique.
Bon, on essaiera de voir ça. On va justement alors essayer de rentrer un peu dans le festival en s'intéressant à quelques séries que vous allez présenter. On pourra pas toutes les aborder. Je voudrais qu'on écoute le générique d'une nouvelle série qui s'appelle The Good Fight. De l'homme, le festival Sérimania 2017. Nous sommes en compagnie de Frédéric Lavigne et Charlotte Blum. Alors, peut-être un mot sur cette nouvelle série, The Good Fight, qui est apparemment un spin-off d'une autre série célèbre qui s'appelle The Good Wife.
C'est juste spin-off qui est un exercice d'un danger absolu, parce que c'est souvent le signe de « Oh, on a gagné de l'argent à droite, on va essayer d'en gagner un peu à gauche. » Et j'ai du mal d'ailleurs à trouver un exemple d'un spin-off réussi jusqu'à celui-là.
Spin-off, c'est une série dérivée.
C'est une série dérivée qui va prendre un ou deux personnages que les gens ont beaucoup aimés et va essayer de réécrire une autre histoire avec cette première histoire et de, en gros, compter sur l'amour des spectateurs pour
leur
ces personnages.
Leur
fidélité dans un océan de choix, toujours.
Il y avait Better Call Saul, quand même, qui était pas mal.
Oui, qui est un spin-off
de Breaking Bad. Moi, j'ai détesté.
Moi, j'avais plutôt bien aimé, quand même.
Moi, j'ai trouvé triste, en fait, Better Call Saul. M'a foutu le cafard.
Ah oui, c'était pas très joyeux.
Breaking Bad n'était pas non plus une série très.
C'est une série lumineuse. Je trouve que le personnage de Better Call Saul n'a pas le charisme de Heisenberg.
Ah, c'est sûr.
Voilà. Bon, alors là, en l'occurrence.
En tout cas, The Good Fight.
The Good Fight, on suit. Moi, mon personnage préférée, en fait, Diane Lockhart, la patronne, la républicaine frustrée, on va dire, et une petite nouvelle qui est arrivée à la fin de The Good Wife, qui forme un binôme avec Alicia, l'héroïne, c'est Luca, et ces deux personnages-là vont être les héroïnes de cette nouvelle série. Alors c'est intéressant parce que, d'une part, on se retrouve avec un binôme d'héroïnes, et pas de héros qui tiennent cette série, une des deux est afro-américaine. Ça aussi, on voit le couple King, les auteurs et créateurs de The Good Wife, qui font avancer un peu le schmilblick, quoi, hein, qui font avancer les choses. Des femmes fortes, mais qui ne sont pas dénuées de sensibilité et de sentiments, beaucoup de questionnements personnels. Et puis, cette scène d'ouverture, qu'on peut spoiler parce qu'elle est très courte, mais qui est exactement ce qu'est The Good Fight, Diane Lockhart sur son canapé qui regarde l'investiture de Trump et qui pète un câble et qui jette sa télécommande et qui décide de partir à la retraite. Parce que vraiment, ce monde, c'est plus possible.
En plus, donc c'est très ancré dans l'actualité. Là, vraiment, commencer la série par Trump.
Bah, c'est ça la force de ces séries quand même. C'est qu'ils arrivent à tourner à une vitesse et à inclure comme ça même l'actualité. C'est admirable à ce niveau-là. Là où en France, des fois, on met 2-3 ans avant de réussir à inclure des mouvements sociaux ou politiques, là c'est quasiment en live, quoi. Alors j'imagine qu'ils ont rajouté juste cette scène d'intro à la dernière minute, probablement, voire même peut-être qu'ils ont retourné, ils ont fait un reshoot pour ça spécialement, mais c'est quand même un geste très fort. Et de toute façon, c'est une série, enfin, moi je trouve le pilote absolument mais admirable, en particulier le pilote que j'ai vraiment vraiment adoré. Et j'ai une façon d'amener les crises financières, la crise politique, après elle part à la retraite, elle est ruinée par une crise à la Madoff. Et elle est obligée, elle, républicaine, d'intégrer un cabinet d'afro-américains, enfin d'avocats afro-américains. Et donc, en passant de l'autre côté de la barrière, et on voit quand même tous les coulisses de cette justice américaine qui est financiarisée au possible, avec ces deux types derrière qui ont un ordinateur et qui évaluent les demandes de caution qu'on peut espérer pour faire du business autour de chaque cas. Enfin, c'est vraiment passionnant et c'est admirablement écrit. Hein.
Je voudrais qu'on écoute le générique d'une autre série qui va être présentée au festival, qui s'appelle Feud, Bette and Joan. Alors, on le voit pas en radio, mais formellement, ce générique de Feud est un très très beau générique avec une esthétique à la soul bass et la musique qui rappelle Bernard Herrmann dans les films de Hitchcock et notamment dans Vertigo. Charlotte Bloom, un mot sur Feud.
Ouais, Feud, en fait, là on le sait pas, mais j'ai une tête de zombie parce que je suis restée coincée devant cette nuit. Je suis complètement fan de Feud, j'adore. Ça raconte, bah, c'est le nouveau bébé de Ryan Murphy qui aime bien explorer les scandales américains. Il l'a fait avec
Ryan Murphy.
C'est une sorte de couteau suisse de la série qui a fait Nip Tuck, une série sur des chirurgiens esthétiques. Franchement, pas élégant. Il a fait Glee sur des ados chantants. Il a fait American Horror Story, donc des espèces de... Mais alors là, pour le coup, de vraies histoires qui font vraiment peur. Il a fait American Crime Story l'année dernière, où il revenait sur le procès d'O.J. Simpson. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui revisite l'Amérique en permanence et qui aussi essaye de faire remonter les questions sur les minorités, de mettre en avant les gens qu'on ne voit pas beaucoup. Et cette nouvelle série, je pense que c'est ce qu'il aime, lui, vraiment, c'est le cinéma des années 60, ce glamour, cette élégance. C'est quand même quelqu'un qui a été chercher Jessica Lange, qui a été chercher Katie Bates pour ses séries, pour leur faire faire des choses improbables. Et là, il raconte dans cette série les querelles qu'il y avait entre Bette Davis et John Crawford, et notamment sur le tournage de Whatever Happened to Baby Jane. Une querelle à la fois montée en épingle par les médias. Il montre vraiment l'impact des médias et la pourriture des médias. Donc ça, c'est l'espèce de pitch de départ. C'est deux actrices hollywoodiennes qui essayent de sauver leur carrière, qui sont en fin de carrière et qui font que de s'engueuler. Mais en vérité, ça raconte la peur de vieillir, la peur de mourir, la condition des femmes à Hollywood qui était qui l'est toujours, hein, catastrophique. On a...
Dès qu'elles passent un certain âge, elles sont plus rochées.
Enfin, aujourd'hui, on voudrait d'elles à la télé. Aujourd'hui, elle serait dans Big Little Lies. Aujourd'hui, elle serait dans ces séries-là, mais dans les années 60. Puis régulièrement, ils parlent de la télé comme d'un truc extrêmement honteux. C'est genre, non, mais là, je tourne dans une série. Faut que tu viennes me sauver de toute urgence.
On a
un personnage de femme qui veut devenir réalisatrice et qui se prend que des portes et des portes et des portes. Et on lui dit, mais reste à ta place. Tu es assistante de réalisateur. Non, tu ne réaliseras pas de film. Tu ne feras rien. Reste une petite femme. Fais des enfants, en gros. Donc, cette série sous couvert de querelles, un peu humoristique parce qu'elle se crêpe le chignon, hein, vraiment littéralement, ça raconte la femme. Et Ryan Murphy raconte très très bien les femmes, je trouve.
Je voudrais qu'on écoute, parce que le temps file, la bande-annonce d'une nouvelle série que vous allez présenter aussi. Ce sera en anglais, là dans cette bande-annonce, ça s'appelle When We Rise.
This is much bigger than you realize. You all have to get yourselves together. This is everybody's issue.
The city will not be taken over by incorrigibles and deviants.
Keep one step ahead of the blacks and homosexuals.
You're never gonna get that minute if you're not willing to fight for it.
Order! We will have order here!
We are not a menace. We will not be silent any longer.
God have mercy on your twisted soul.
Help me!
If we ever want to be free, we have to stop hiding. All of you combined are stronger than you know.
It's an illness. It can be treated.
I don't understand.
I don't understand!
What are you afraid of, Roma?
I won't run. I'll fight.
We fight until they realize this is our home, and we're fighting with our lives!
Too much left to fight for.
Valeurs de l'Homme, le festival Cérémania 2017, nous sommes en compagnie de Frédéric Lavigne et Charlotte Boulle. Alors When We Rise va être présenté aussi comme la série dont on vient de parler, Feud.
Oui, Feud, ça sera en clôture parce que comme vient de l'écrire Charlotte, c'est vraiment du velours, donc on s'est dit que c'était parfait pour la clôture qu'on fait avec Canal+, ce que c'est diffusé sur Canal en ce moment. Et puis When We Rise, oui, c'est pareil, ça va être une des séries qu'on passe et qui raconte le monde, hein. C'est quand même aussi un support incroyable, la série, pour raconter tous les mouvements sociaux, les combats, voilà, on a parlé du statut des femmes. Et dans When We Rise, alors c'est délibérément extrêmement pédagogique, je pense qu'il y a vraiment une fonction là-dedans dans cette série de se dire on va faire Harvey Milk puisque c'est le même attelage de Harvey Milk, le film avec Sean Penn,
donc avec Gus Van Sant
et avec le même scénariste qui est Dustin Lance Black, et qui se sont dit on va faire une déclinaison sérielle de Harvey Milk mais sur une chaîne qui s'appelle ABC, qui est la chaîne sans doute la plus populaire aux États-Unis, et on va le faire pour rappeler, en fait c'est pareil, c'est regarder dans le rétroviseur et n'oublions pas d'où on vient, les combats féministes, les combats LGBT, et n'oublions pas d'où ça vient. Et je pense qu'ils ont sont sentis arriver la vague Trump, puisqu'ils ont préparé ça un peu avant, et ça arrive à point nommé à un moment où ça fait pas de mal de rappeler tout ça. Et d'ailleurs nous dans le festival on a un journaliste, Romain Burel, qui dans la nouvelle version du magazine Têtu là, qui vient de sortir et qui nous a demandé vraiment de faire des débats après chacune de ces projections. On en fera 3 dont dans les 2 UGC, et à chaque fois il sera là pour en débattre derrière.
Donc le festival sera lui à sa manière aussi pédagogique comme la série When We Rise, Charlotte Bloom.
Bah, une grande leçon d'histoire, en fait, parce qu'on croit qu'on sait, puis en fait, on sait jamais rien. Et effectivement, ils ont dû voir venir le besoin de se rebeller et le besoin, on a besoin, là, aujourd'hui, de se faire entendre. Et moi, je trouve qu'on vit à une époque extrêmement passive, et de voir ces gens descendre dans la rue et de réaliser que, contrairement à ce qu'on croit, hausser la voix, se rassembler, se réunir, parce que effectivement ça parle des combats LGBT, mais ça montre que même dans ces communautés là il y a encore les féministes qui veulent pas parler aux hommes, les racistes qui veulent parler aux gays mais pas aux gays noirs, et en fait t'as des micro-haines dans des milieux qui se disent tolérants. Et ça rappelle à quel point on ne peut rien faire les uns sans les autres. C'est impossible. Pour moi, c'est vraiment une série sur la réunion des humains et sur le pouvoir qu'on a quand on est plusieurs.
Dans le combat social. Il nous reste moins d'une minute, Frédéric Lavigne. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a des séries françaises d'importance, et en tout cas remarquables ou remarquées, qui vont être présentées, et notamment Kim Kong, Mission, et une série qui s'appelle Transfer.
Oui, oui, bah c'est des séries un petit peu coup de cœur cette année. On a toujours une sélection française. On essaie d'être à l'écoute aussi des séries françaises et de leurs tentatives. Il y a Arte cette année qui nous en amène 3 et qui font des tentatives assez variées, dont Aurore, aussi une mini-série de Laetitia Masson, très cinéma avec beaucoup d'actrices, et puis ce Kim Kong qu'on a mis même en compétition officielle tellement on l'a trouvé atypique sur cette histoire improbable d'un cinéaste français d'action à la Luc Besson qui est enlevé par un dictateur asiatique pour tourner un film de propagande cinéphile, voilà, donc c'est quand même étonnant. Et puis effectivement il y a deux tentatives de SF, un peu Mission, une série OCS qui va sur Mars et qui se débrouille très bien avec un budget quand même assez restreint, et puis Transfert qui parle de la quête éternelle d'immortalité de l'homme, là avec une possibilité de choisir un corps pour continuer à vivre dans un autre corps quand on meurt, et ça c'est des tentatives vraiment vraiment réjouissantes en France quand même qu'il faut suivre.
Ça donne très envie. Bon, cette émission s'achève, on aurait pu rester encore longtemps avec vous. Je vous remercie en tout cas chaleureusement d'être venus, Frédéric Lavigne et Charlotte Bloom. Merci à Arnaud à la technique. On va se quitter avec la chanson du générique de la série Rectify. On se retrouve dans 15 jours. À bientôt.